un concert un peu particulier ce lundi soir au Conservatoire du Grand Besançon, à l'Auditorium, à la Cité des Arts. On va y entendre de la musique d'Adèle Hugo. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous êtes aussi surpris que nous l'avons été nous-mêmes. Et pour avoir quelques explications, on appelle un compositeur. C'est Richard Dubugnon qui est en ligne. Expliquez-nous comment vous en êtes venu à vous intéresser à Adèle Hugo, qu'on ne connaît pas nécessairement comme musicienne.
Oui, merci. Je suis compositeur franco-suisse de Lausanne, donc... Je connais bien Besançon et la région, et je m'intéresse beaucoup aussi à la musique, donc les œuvres peu connues. Et j'étais à Guernesey en 2004 pour l'occasion d'un festival international Victor Hugo, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui faisait des commandes à des compositeurs d'aujourd'hui sur des textes de Victor Hugo. Et lorsque j'avais visité la maison Hauteville House, qui est cette magnifique maison qui surplombe le port à Guernesey, on m'a dit, mais vous savez, on a ici, dans une malle, des manuscrits d'Adèle Hugo, la fille de Victor. Et on ne sait pas ce que ça vaut. Est-ce que ça vous intéresserait de regarder ? Alors, moi, j'étais très étonné, comme vous, d'apprendre qu'Adèle Hugo avait écrit de la musique, puisqu'on n'en fait pratiquement nulle part mention dans ses biographies. Alors qu'on sait qu'elle était pianiste, même d'un très bon niveau. Et la conservatrice m'a dit, si, au cours des années, on avait montré deux, trois fois, une fois un musicologue qui avait l'air de trouver ça médiocre. Et en parcourant ces pages qui étaient très éparses, il y avait beaucoup de feuilles volantes, beaucoup de choses pas terminées, j'ai découvert un corpus d'une quinzaine de mélodies pour voix et piano, toutes sur des textes de son père. Et quelques-unes des mélodies sans paroles qui étaient complètes, qui s'avèrent être vraiment d'une grande valeur musicale et évidemment historique, puisque le personnage d'Adèle Hugo est ce personnage de femme créatrice dont le destin fut sacrifié à la fois à cause d'un père très écrasant et puis évidemment ces problèmes d'amour que l'on connaît malheureux.
On connaît Adèle Hugo beaucoup à travers le film Adèle H.
C'est vrai qu'il est évidemment un portrait un petit peu romancé, mais qui a l'avantage d'avoir été filmé pratiquement intégralement à Guernesey. Mais c'est évidemment, c'est Truffaut. Mais on connaît peu. Maintenant, heureusement, il y a une correspondance complète qui va être bientôt publiée, qui est d'ailleurs une correspondance critique par Laure Murat, qui est chargée notamment d'études françaises et les 19e-istes à l'université UCLA à Los Angeles, de Californie. Et donc, on aura l'occasion de connaître encore mieux ce personnage assez étrange et méconnu, comme je l'ai dit encore une fois, dans l'ombre du père. Donc, il y a encore toute une dimension de femmes sacrifiées qui prend tout son sens aujourd'hui, à l'époque où maintenant on commence vraiment à s'intéresser au sort de ces femmes artistes créatrices, en particulier dans cette période du 19e siècle qui était quand même particulièrement difficile.
Richard Dubugnon, comment se présente alors cette musique d'Adèle Hugo que vous avez retrouvée à Guernesey? Partition accomplie, terminée ou ébauche?
Ça a été tout un travail pour moi d'inventaire, puisqu'on m'a confié la charge justement de m'y intéresser, de m'en occuper. Ce sont donc les maisons Victor Hugo à Guernesey et à la place des Vosges à Paris, et leur directeur Gérard Audinet qui m'ont confié les photographies de ces manuscrits sur lesquels j'ai pu faire tout un travail de recherche parce que beaucoup de choses sont incomplètes, beaucoup de choses sont éparses, beaucoup de pages, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, il n'y a parfois pas de texte et parfois c'est gribouillé. Donc j'ai découvert qu'il y avait pas mal de pièces qui n'étaient pas d'Adèle Hugo, qu'elle avait recopié elle-même de sa main. Par exemple une pièce de Rossini, une ouverture d'un de ses opéras qui a été réduit pour piano. Mais au fil du temps, sur à peu près 2 ans de travail, on découvre 14 mélodies pour voix élevée ou voix médium et piano. Toutes, je l'ai dit encore une fois, systématiquement sur les textes de son père.
Quand vous parlez de voix et piano, est-ce que, par exemple, la partition du pianiste est réalisée ou est-ce que vous avez dû faire appel à votre travail de compositeur pour aller au minimum harmoniser tout ça ?
Elle était une compositrice autodidacte, mais elle avait déjà un très bon niveau, en tout cas en harmonie et en écriture. En général, elle avait un très bon sens de la phrase, de la mélodie, de l'harmonie. Les parties de piano sont très simples et très bien écrites. On voit que c'était une très bonne pianiste. Et le style est assez galant, typique de cette deuxième moitié du 19e, assez romantique, mais en même temps teinté d'une nostalgie un petit peu indescriptible qui est vraiment à elle. Alors c'est un univers entre Gounod et Bizet, le jeune Bizet peut-être, avec l'influence de leur maître qui était à Lévis, et des petits relents de musique un peu aussi, peut-être un peu de Rossini en effet, ou de Spontini, Meyerbeer, enfin les compositeurs qui étaient à la mode à l'époque. Mais c'est des mélodies très simples, qui sont vraiment assez modestes et tout dans l'expressivité. Et chose étonnante, on a les premières mises en musique de chansons des Misérables, de chansons de Gavroche notamment, qu'elle a mise en musique, donc bien avant la fameuse comédie musicale que l'on connaît.
Le célèbre « Je suis tombé par terre », c'est la faute à Voltaire ?
Alors oui, et c'est d'ailleurs très émouvant, puisque le texte s'arrête au moment où, vous savez, le nez dans le ruisseau, c'est la faute, et trois petits points. C'est une ritournelle, hein, on a trois fois la même musique, et là, ça s'interrompt, donc ça fait évidemment un effet assez dramatique.
Quatre musiciens de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté pour, alors je sais pas s'il faut dire ce concert, c'est une audition d'une heure environ, nous dit-on, ce lundi soir. Alors je suppose quand même que là vous avez dû orchestrer un peu tout ça.
Il va s'agir de l'exécution, la première exécution mondiale de ces mélodies sans paroles, qui sont donc des mélodies qui n'ont pas été écrites sur des textes particuliers, que j'ai moi-même dû arranger pour un des instruments non défini, c'est-à-dire c'est au choix, soit ça peut être une clarinette, soit ça peut être un violoncelle ou un alto, qui peut être accompagné par le piano. Et ces mélodies-là, cette création, si vous voulez, est en fait le premier jalon d'une d'exécution intégrale des œuvres d'Adèle Hugo. Les mélodies, donc avec voix, suivront dans une version orchestrée par moi-même, pour l'orchestre Victor Hugo qui aura lieu pendant la saison 2022-2023 avec des chanteurs de renommée internationale.
Est-ce qu'on peut imaginer de trouver ceci sur un disque par exemple ?
Cela va de pair puisque la création de ces œuvres en concert donnera également lieu à un enregistrement discographique.
Est-ce le début d'une aventure ou est-ce un aboutissement, Richard Dubignon ?
C'est l'aboutissement, je crois, pour ma part en tout cas, de une bonne quinzaine d'années d'attente, puisque j'ai toujours été convaincu de l'importance de ressusciter ces œuvres qui sont posthumes. Hein. Et à part une ou deux mélodies dont on sait qu'elles avaient été jouées dans l'intimité à Guernesey, elles n'ont jamais été révélées au public. Et pour la mémoire de la pauvre Adèle Hugo, qui a quand même fini les dernières années de sa vie dans un hôpital psychiatrique, je pense que c'est la moindre des choses, le moindre hommage qu'on lui doit. Et la famille Hugo sera d'ailleurs présente, dont son homonyme, Adèle Hugo, puisqu'il y a aujourd'hui 7 descendants directs de Victor. Et c'est, je pense, également pour eux un événement très important.
On l'a bien compris, donc le rendez-vous de ce lundi soir va bien au-delà de la curiosité. C'est à l'auditorium du Conservatoire du Grand Besançon, à la Cité des Arts. C'est à 19h, alors avec des partenaires, dont évidemment la maison natale de Victor Hugo à Besançon. Mais là, vous n'y avez trouvé aucun document.
Non, mais je n'ai même pas été les chercher, mais j'en serai en tout cas très heureux de leur rendre visite et je suis très heureux aussi de l'initiative de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté et de son chef directeur musical Jean-François Verdier qui a cru en cette résurrection musicale déjà depuis bien longtemps.